Europe 1.
Près de 15% de la population française vit désormais en dessous du seuil de pauvreté. Soit avec moins de 1000 euros par mois pour une personne seule. Avec la crise économique, ils sont de plus en plus nombreux à se battre chaque jour pour se loger, se nourrir et élever leurs enfants dans des conditions plus que précaires. Souvent, rien ne prédestinait ces combattants du quotidien à vivre de telles épreuves après une maladie, un licenciement ou un simple divorce. Des accidents de la vie qui peuvent arriver à chacun d'entre nous du jour au lendemain. Système D et solidarité sont devenus les modes de vie de ces Français de la crise. Comment trouvent-ils d'autres moyens pour s'en sortir? Quelles sont leurs valeurs pour garder la tête haute? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Margot. Sa vie a basculé juste avant la cinquantaine, quand elle a compris que son CV n'intéressait plus personne. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus.
Margot.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Nous sommes ici donc un peu chez vous.
Ah, tout à fait chez moi, puisque ce sont mes grands-parents qui habitaient ici.
Margot est représentative de ces femmes et de ces hommes qui, passé la cinquantaine, n'arrivent plus à retrouver du travail. Divorcée, sans emploi fixe depuis 5 ans, Margot a dû quitter sa vie parisienne pour revenir ici, sur les terres de son enfance. Un environnement qui apaise cette femme de caractère, qui a vu sa vie s'écrouler en quelques mois.
Ça me rassure que les choses soient immuables, en fait. Il n'y a rien qui change, là, vous voyez. C'est les mêmes paysages depuis que je suis petite, en fait. Même si je regarde la maison de mes grands-parents de loin et que c'est d'autres gens qui y vivent ou autre, mais au moins je suis chez moi, je peux me raccrocher à des choses qui rassurent et qui ne me font pas de mal. Mmh. Au moins c'est ça, c'est mieux qu'une rue à Paris sous une toile de tente, si j'ai la chance d'en avoir une. Ou... C'est en tout cas mieux d'être là.
Vous avez 56 ans.
Oui.
Aujourd'hui, vous vivez de quoi?
De 16,25 euros par jour. Je vis de l'ASS, ce qu'on appelle l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité. J'ai au moins cette chance de l'avoir parce que j'ai toujours travaillé jusqu'à un certain âge. Et donc, ça me permet de bénéficier de cette allocation, contrairement au RSA. Je dis contrairement parce que l'ASS permet de cotiser pour la retraite. Mais c'est douloureux de se dire qu'on recherche un emploi en ayant 16,25 euros par jour parce que la priorité, là, elle est de chercher un emploi, mais elle est surtout de trouver à bouffer. Je suis désolée, hein, je suis un peu crue, mais il faut arriver à se débrouiller. Et puis, mais pour l'instant, je suis hébergée. Je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir encore durer, mais ce n'est pas le but du jeu. Moi, je n'ai pas envie d'être hébergée jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis aussi, je pense qu'on n'est pas prêt à être mis
sur la touche
maintenant, quoi. C'est trop jeune, on a du temps devant nous puisqu'on n'a plus d'enfants à charge.
Vous n'étiez pas si loin lorsque vous avez décroché un peu du monde professionnel, vous n'étiez pas si loin de la retraite.
Eh bien, pas si loin, non. J'étais à 10 ans, quoi.
À 10 ans.
Donc c'est une sortie de route. Mmh. C'est un peu excessif comme expression, mais c'est une sortie de route. C'est trop dommage.
Margot est née en 1960. Suivant les traces de sa mère, elle se marie jeune, à 20 ans, et donne naissance à son fils unique la même année. À l'époque, son mari est commercial et Margot, elle, enchaîne différents métiers.
J'ai vendu des chaussures, donc j'ai travaillé dans des hôpitaux. Je trouvais des travaux de dactylo. À l'époque, on trouvait encore des travaux de dactylo. Mmh. J'ai fait concierge d'immeubles dans Paris. C'était super sympa, ça. Mmh. J'ai fait démonstratrice, oui, à la Samaritaine, au moment de Noël, du secrétariat.
Donc, vous vivez plutôt bien, tous les deux.
Oui.
C'est-à-dire, votre mari, à l'époque, gagne plutôt bien sa vie.
Oui, il gagnait 10 000 francs. Et moi, je devais toucher à peu près 4 000 ou 5 000 francs à l'époque, donc c'était bien. On partait en vacances,
ouais.
On avait envie de se faire un week-end au Mont-Saint-Michel, par exemple, et ben, on sautait dans la voiture, on allait au Mont-Saint-Michel. L'erreur qu'on a commise, comparée à d'autres personnes, c'est que on n'a pas acheté de maison, on n'a pas mis de toit sur notre tête, et que on n'a pas été tellement prévoyant.
Margot suit donc les affectations de son mari, mais elle s'oublie un peu en chemin. Passée la trentaine, la jeune femme éprouve le besoin d'avoir un vrai métier dans les mains. Elle décide de reprendre des études et passe son bac à 34 ans. Elle obtient un BTS d'assistante de direction bilingue 3 ans plus tard. Très vite, elle décroche son premier CDI.
C'était une société qui faisait du crédit.
D'accord.
J'ai adoré faire ça pendant presque un peu plus de 10 ans. Mmh. J'ai adoré faire ça. Je me sentais vraiment exister, quoi. Je me sentais utile.
Quel était votre salaire à l'époque ?
1 800 euros.
1 800 euros.
Sur 13 mois.
Sur 13
avec
mois.
Une prime l'été.
D'accord.
C'est le paradis.
Durant cette période-là, vous avez divorcé aussi ?
Oui. Je me suis autorisée à vivre ma vie. Mmh. Et je me suis dit que là, j'avais pas de barrière à me mettre. Mon fils était élevé. Donc, quelque part, je me suis dit que j'allais vivre pour moi.
Quel âge avez-vous quand vous divorcez ?
Je devais avoir 40 ans, 41 ans.
À ce moment-là, vous êtes sur des rails professionnellement,
oui.
Vous êtes épanouie,
oui.
Et vous êtes libre.
Je suis heureuse. Ouais.
Et heureuse.
Ah oui, je suis heureuse. À cette époque-là, j'ai jamais eu la peur au ventre que j'ai maintenant. Je me suis jamais dit, je vais me retrouver à la rue, jamais de la vie.
En 2008, Margot a 48 ans lorsque son directeur est soudain licencié. Quelques mois plus tard, c'est à son tour d'être remercié. Malgré cela, d'un naturel optimiste, Margot ne s'inquiète pas trop.
Je me dis, bon, t'es en région parisienne, t'as pas encore 50 ans, t'es en pleine force de l'âge, t'es diplômée, c'était ce que je voulais. T'as de l'expérience, des compétences, tu l'as prouvé pendant 10 ans de suite dans une entreprise. Donc pour moi, ça allait pas durer.
Comment ça se passe, la suite de ce licenciement ? En fait, vous vous inscrivez à Pôle emploi ?
Oui, je m'inscris à Pôle emploi, ça c'était en décembre. Et puis Pôle emploi ne me reçoit qu'au mois d'avril. Donc c'était le délai de carence. Et entre janvier et avril, j'essaye de me débrouiller par moi-même en faisant ça un petit peu à l'ancienne.
C'est-à-dire ?
En essayant, je me dis, je vais aller rue de la Pépinière, dans le 8e, je vais pousser les portes des boîtes d'intérim. Sauf que là, ça ne se fait plus comme ça.
Mmh.
Il faut se faire remarquer d'abord par Internet. Et puis, c'est une RRH qui vous appelle et qui vous convoque pour un entretien. Et moi, je ne maîtrise pas les nouveaux outils. Je ne comprends pas la langue qu'on me parle. J'ai vraiment l'impression d'être une martienne qui débarque et qui a tout à réapprendre de ses techniques de recherche d'emploi. Et je perds beaucoup de temps à partir de là. Et là, je souffre. Parce que je me rends bien compte que j'ai pas la posture. Moi, je savais même pas que ça existait, ce mot, posture. J'ai pas la posture, j'ai pas le vocabulaire qui va bien. Être fonction, support, transversal, est-ce que je sais ? Moi, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas la tenue qui va bien. Moi, je me présente encore en petit tailleur avec un petit chemisier blanc, le petit ras-de-cou en perles. Là, ça y est, je me rends compte qu'il y a une différence qui s'est opérée. C'est-à-dire que soudain, je ne suis plus cette jeune femme qui est reçue par des femmes de 40 ou de 50 ans, mais je suis une femme de presque 50 ans reçue par des RRH de 25, 30, 35 ans. Et je vois bien qu'il y a un problème, je vois bien qu'il y a quelque chose. Et je multiplie les recherches d'emploi. Je fais faire mon CV par un cabinet extérieur, 60 euros, ça ne prend pas plus.
Vous envoyez 1500 CV, hein, pratiquement.
Oui, ouais, 1500. C'est 6 CV par jour.
Donc, est-ce que sur ces 1500 CV que vous envoyez, vous recevez beaucoup de réponses ?
Oui, je reçois quand même des réponses, mais c'est toujours des lettres type. On a gardé votre candidature, si un poste se profile, on pensera à vous.
Quel regard porte-t-on sur vous ?
On m'a dit une fois, est-ce qu'on... C'était des jeunes sympas en même temps, mais ils m'ont dit une fois, est-ce qu'on peut vous appeler mamie ? Non, j'ai pas envie qu'on m'appelle mamie. Ou une autre fois, une jeune femme qui m'a dit « Mais comment je pourrais vous faire des remontrances ? Vous avez l'âge de ma mère. » C'est quelque chose qui me serait jamais venu à l'esprit. Vous voyez, avant, on m'aurait jamais dit un truc pareil. Et puis, récemment, un recruteur m'a dit « Vous savez, moi, les gens de 50 ans, les neurones, ils fonctionnent pas de la même façon. Moi, je les recrute pas. » Le gars, il avait juste 47 ans. Hein. Donc, et il était recruteur.
En fait, ouais. Les deux années passent durant lesquelles vous avez l'indemnité chômage mm-hmm. qui diminue petit à petit. Donc je suppose que petit à petit, vous êtes obligé de supprimer des dépenses.
Ah oui, tout ce qui était... je m'étais accordé d'aller chez le coiffeur, par exemple. Alors une couleur, ça, c'est plus la peine. Hein, donc je laisse ma couleur naturelle. Voilà, le cinéma, c'est-à-dire quand vous êtes demandeur d'emploi, vous payez quoi ? 2 euros en moins sur une place de cinéma. Donc c'est pas possible. Je supprime les sorties chez les amis aussi, parce que même si on dit ben non, n'amène rien, amène-toi toi, moi je viens toujours avec un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, je suis en région parisienne, je fréquente pas des gens dans ma situation. Et puis j'ai pas non plus envie d'entendre dire ben non, mais t'as déjà pas de sous. Vous voyez, ça c'est pareil, hein, c'est le truc qui fait mal.
Mais à un moment, ces droits au chômage s'arrêtent.
S'arrête.
Et vous êtes obligé de quitter votre appartement.
Oui.
Lorsque vous passez d'un appartement à une chambre de bonne, c'est un choc pour vous ?
Oui, de se retrouver dans 12 mètres carrés. Quand on peut ouvrir la porte du frigidaire avec son pied gauche, ça donnait sur une cour. J'étais là à regarder les appartements en face, les cheminées. J'avais beau être dans Paris, je me disais là, je suis en train de tomber de plus en plus bas.
Hein. Lorsque... vous obtenez la SS. Vous vous dites que vous allez pouvoir tenir longtemps à Paris avec 16,25€ par jour.
Non, je sais que je ne vais pas tenir du tout, donc je pars tout de suite. C'est la peur de finir dans la rue. Je me suis vue avec ma petite toile de tente et ma petite table de camping. Et la question que je me posais bêtement, c'était mais où est-ce que je vais aller me laver ? Où est-ce que je vais aller aux toilettes ? Comment je vais faire, quoi ?
Touchés par la détresse de Margot, des amis acceptent de mettre à sa disposition une pièce de leur maison dans le sud-ouest. Lorsqu'elle déménage en 2015, Margot vend presque tous ses biens pour récupérer un peu d'argent et arrive ici avec 3 000 euros qu'elle tient absolument à conserver.
3 000 euros, je vais vous dire pourquoi. S'il m'arrive quelque chose, j'ai pas d'assurance obsèques. Et donc, je veux pas que quelqu'un ait à payer mes obsèques pour moi. On pense à tout, vous savez, Olivier, hein, quand on est comme ça, j'ai 56 ans. Hein, et ça fait peur, parce que vous vous dites, mais moi, s'il m'arrive quelque chose, comment on fait ? Qui paye pour moi ? Il est hors de question que mon fils qui a sa vie à faire. Il est hors de question qu'il paye pour moi. Mmh. Et là, j'ai vu... mon papa est décédé au mois d'août, cette année. Et pour ma mère, ça a été difficile de sortir 3 000 euros. Hein.
Vous espériez quand même, en arrivant ici, trouver des petits emplois
Oui, curieusement, j'avais l'impression que ça allait être beaucoup plus simple. Parce que pas trop de monde dans les villages, une population malgré tout vieillissante, la proximité de Duras, de Marmande. Je me disais que ça allait vraiment être plus simple. Et en fait, pas du tout. On ne donne pas de travail à une senior. Maintenant, il faut que j'apprenne à survivre autrement avec les moyens qui me sont donnés. Et il faut accepter cette résignation-là.
Vos journées, en fait, le système D, il se traduit comment pour vous ? Vous mangez quoi ?
Pâtes, riz, pommes de terre, riz, pâtes. Et après, je fais les promos. Et puis, certains voisins, certaines personnes déposent des sacs entiers de tomates. On arrive à se débrouiller comme ça. Mais sinon, alors la viande, ça, on oublie. Moi, je ne fais plus le marché, je ne vais plus jamais au marché. Ça fait partie des souffrances, voilà, quand on est dans la précarité.
Ce qui a un impact sur votre santé ?
Ah oui, moi, j'ai pris 12 kilos. Donc du coup, c'est quand même 12 kilos qu'il faut traîner. Hein. Ouais. Et puis, il y a des problèmes. Oui, c'est lié, forcément. Hein.
Est-ce que vous vous soignez ? Est-ce qu'on arrive à... Comment est-ce qu'on vit avec 16,25€ par jour ?
Alors, on ne se soigne pas, sauf si on a la CMU. Moi, je ne l'ai pas. Donc là, j'ai une dent qui me titille depuis 2 mois. Il faut l'arracher et j'ai la trouille parce que j'ai déjà plus de dents de là. J'ai plus de dents là. Si j'en ai plus là, ça va être l'enfer. Hein. Donc, on se soigne pas.
Margot peut profiter de la cuisine et des sanitaires de la maison en toute discrétion et me montre la pièce où elle vit. Quelques mètres carrés salutaires, sans chauffage, mais qui lui permettent de dormir avec un toit sur la tête.
Alors là, c'est ma pièce.
D'accord.
Donc, j'ai ramené j'avais un meuble que j'aimais bien. Donc, c'est un des rares meubles que j'ai. Et je dors là. Et quand je suis ici, je suis loin de la ville, donc j'ai pas la crainte que j'avais quand j'étais en ville. Mais ici, je suis pas tranquille quand même, parce que je suis pas chez moi. Et donc, de l'ancienne vie, eh ben, y a tout ça.
Tous vos cartons?
Tous mes cartons sont là. Toutes mes archives sont là. Par exemple, ça, c'est ma cousine, une de mes cousines. Vous voyez, elle m'avait acheté ça, chambre, pour quand le jour où j'aurai mon appartement. Mmh. Elle m'avait acheté ça. Voilà. Ici, bah, c'est tous mes albums photos. Ils sont tous là. Voilà, il y a toute ma vie ici.
En espérant qu'un jour, de toute façon, ils reprennent place dans une maison.
Ah oui, c'est mon souhait, hein, c'est d'avoir quelque chose dans lequel je puisse m'installer, même si je n'ai pas beaucoup de meubles, ça m'est complètement égal. Hein. Mmh. Et voilà, j'ai tous ces courriers, vous voyez. Voilà, ça me rappelle que j'ai existé. Ça me rappelle que j'ai eu une vie. Peut-être que ça va revenir, les choses.
Et en attendant que les choses reviennent, Margot a décidé de se battre. Comme un cri du cœur, elle a écrit récemment un livre qui retrace son parcours. Sans le savoir, elle est devenue la porte-parole de tous ces quinquagénaires qui galèrent face au monde du travail.
Hey, regardez les filles, voilà la maison que je vais acheter si je vends suffisamment d'exemplaires. Je la connais par cœur, j'ai déjà fait l'aménagement.
Mais pourquoi tu...
Ah, mais t'es rentrée ?
Tu peux voir à l'intérieur ?
Eh ben, venez.
Dans la situation de Margot, l'une des difficultés a été aussi de retisser du lien social. Il y a quelques mois, elle a rencontré Aline, puis Nadou. Petit à petit, toutes les trois ont lié connaissance et sont devenues amies. C'est même Aline qui lui a conseillé d'écrire son livre.
Margot écrivait des petits textes sur Facebook. Et je lui ai dit, mais ces textes, en fait, je me suis rendu compte qu'elle les effaçait.
Oui.
Au fur et à mesure.
Ouais, j'efface tout le temps.
Et donc, je lui ai dit, c'est dommage parce que tu écris bien, tu devrais écrire. Et c'est puis, elle s'est lancée. Elle a écrit son livre. Et puis, je me souviens, j'étais en vacances et elle m'envoie, elle me dit, Aline, tu peux lire ça. Et donc, je l'ai lu en une nuit sur mon téléphone.
Sur son téléphone.
Sur votre téléphone.
Oui, dans ma toile de tente, en vacances.
Ouais, c'est émouvant, ça, quand même.
Ouais.
Ça.
Et bon, j'avais plus de connexion, je me suis relevée pour plus de batterie pour finir, parce que c'était vraiment, l'histoire est très prenante. Donc, j'ai découvert aussi, en lisant comme ça, tout ce qu'elle avait vécu, qu'elle ne m'avait pas dit. Mm-hmm. Et ça a fait écho aussi à des choses que moi j'avais vécues, parce que mon mari avait perdu son travail à un moment. Donc j'ai compris encore plus cette angoisse dont elle témoigne.
C'est Aline et Nadou, c'est énorme, parce que ce sont les rares personnes, les deux seules personnes quasiment que je vois, et je ne suis pas en souffrance quand je vais les voir. Je vois Aline avec son mari, avec ses enfants, cette maison. Moi, j'adore, mais ça me fait kiffer, quoi, comme on dit. Tout ce qu'on peut partager. Je ne suis pas en souffrance, parce qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment on dit.
Il n'y a pas de non-dit.
Il n'y a pas de non-dit.
Il n'y a pas de non-dit, il y a du naturel.
Voilà, c'est ça. Voilà,
on accepte la situation de Margot naturellement.
Voilà. Mmh.
On n'est pas non plus à pleurer, à la plaindre. Voilà, on vit sa souffrance, mais on ne la plaint pas.
Comment est-ce que vous expliquez qu'à proximité d'une ville comme Bordeaux, par exemple, où on sait que c'est une ville en pleine expansion, comment est-ce que vous expliquez que personne ne puisse lui avoir proposé quelque chose ?
Moi, je me dis que les employeurs ont peur des problèmes de santé qui vont arriver avec l'âge. De plus en plus, on parle de cancer, on parle de dépression. Et donc après, c'est une charge pour un employeur, du personnel malade.
Moi, c'est plutôt le côté malléable. Se dire que, passé 50 ans, on est peut-être un petit peu moins malléable. Mmh. On a une vie, on a une expérience, on a créé sa famille, tout ça. Et que, on est peut-être un petit peu moins corvéable. Ah, merci. Mmh. Et je pense que c'est ça aussi.
Mmh. Alors, on pousse les gens à travailler de plus en plus tard, ce qui semble logique dans la mesure où on vit de plus en plus tard. Mmh. Par ailleurs, si on n'a pas d'emploi à un certain âge, on ne nous laisse pas accéder à l'emploi. Donc il y a plein d'incohérences, quoi.
Allez-y, je vous
prie. Merci.
Elle est ouverte, il est ouvert au public,
oui,
ce château ?
Il a été complètement rénové.
Il y a longtemps ?
Maintenant, ça fait une quarantaine d'années qu'ils sont en rénovation.
Je me demande si Margot a des regrets lorsqu'elle se penche sur son passé. pour les quinquagénaires en recherche d'emploi, l'avenir me semble très compliqué. Alors pour l'instant, vous avez cette allocation solidarité.
Ouais.
Mais un jour, vous aurez une retraite.
Ouais.
Dans combien de temps vous aurez une retraite maintenant ?
Dans 6 ans. Je pense que je vais avoir 700 ou 800 euros. 700 ou 800 euros. Donc d'ici là, j'ai intérêt à me trouver quelque chose où je paye pas trop cher de, où je paye pas trop cher de loyer, de charges, etc. Mais j'aurais dû économiser assez pour acheter une maison au moment où j'aurais dû le faire. Je voulais pas, je trouvais ça, je trouvais ça bourgeois, je trouvais ça, je me disais que c'était pas le moment d'acheter une maison. Qu'on pouvait, j'étais un peu oiseau sur la branche quelque part. Ça, c'est une erreur que je regrette. Mmh.
Quel regard vous portez sur ces 8 dernières années?
Je porte un regard douloureux, je porte un regard... c'est affreux, j'ai pas de souvenirs, j'ai que des souvenirs de douleur sur les 8 ans qui viennent de passer. 8 années de quête, 8 années de mendicité, de se vendre pour rien, d'accepter parfois des missions dévalorisantes avec des gens méprisants, d'aller à des entretiens d'embauche où on sait pertinemment que ça va aboutir sur rien, mais on y va pour s'habituer à avoir un entretien d'embauche, etc. Non, moi je peux plus faire ça, j'ai plus la force de faire ça. Je veux pouvoir me dire, j'ai fait le choix de me résigner de vivre avec ce peu que j'ai, mais j'ai fait le choix de vivre mieux. Mieux malgré tout, c'est-à-dire de vivre plus en contact avec la nature et de vivre de m'habituer à vivre avec moins.
C'est quoi la suite de l'histoire pour vous?
C'est prendre le peu d'affaires que j'ai et partir à la montagne, dans les Cévennes ou en Ardèche, où j'ai des plans de repli, plus ou moins dans des sortes de communautés qui sont en train de se créer, avec des jardins partagés, avec des maisons partagées. Peut-être qu'on peut apprendre à vivre différemment. On a déjà identifié des villages qu'on pourrait investir. On n'a pas peur du terme parce que c'est des villages. Il y a un village en Corrèze qui était à vendre. Eh ben, si on réunit suffisamment de bonne volonté, ce village, peut-être qu'on peut l'acheter et peut-être qu'on peut le faire vivre. Ça, c'est des solutions à proposer au quinquas. C'est-à-dire rouvrir un village, retaper les maisons, prendre les jardins, faire des potagers, avoir des poules, avoir des œufs. Et puis, pourquoi pas, l'ouvrir à l'extérieur, croire que tout ça, c'est possible. Ouvrir une boulangerie, ça permettrait à un quinquas, par exemple, qui est boulanger, qui a perdu son boulot pour X raisons, eh ben, de rouvrir une boulangerie.
Ça permettrait de recréer ce qui a existé il y a 60 ans à peine.
Voilà. Il faut réunir toutes les bonnes volontés et puis faut y aller. Il faut dire nous ça on peut le faire et nous on peut faire revivre quelque chose.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Elena. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.